remercier, vous remercier encore pour l'excellence de cette conférence, parce que c'était clair, c'était bien précis, et moi j'ai appris, découvert plein de choses. Donc un grand merci. Après, c'est plus difficile, je ne sais pas comment si je veux me faire comprendre. Quand vous parlez d'interprétation, et là je vous suis tout à fait, est-ce que c'est par rapport à une révélation, ou est-ce que c'est par rapport à des sources que la communauté musulmane a gérées, a transformées, a codifiées, comme la communauté chrétienne l'a fait pour l'Évangile. Voilà. Et puis, alors, j'ai une question secondaire aussi. Quand vous parlez du livre, que nous sommes religion du livre, comment les musulmans comprennent ce livre? Vous avez parlé de l'Évangile, justement, mais qu'est-ce qu'ils mettent, est-ce qu'ils en disent plus sur le contenu de cet Évangile? Et quand on parle du livre, est-ce qu'ils en mettent plus sur le contenu de ce livre? Okay. Voilà.
Peut-être que je n'ai pas bien compris. Merci aussi pour la conférence, bien sûr. J'ai peut-être pas bien compris, c'est la question de la résurrection. Par rapport au fait que je n'ai pas entendu que, dans ta bouche en tout cas, que Jésus soit mort, crucifié. Parce qu'a priori, il y a un peu semblant. Donc comment est-ce qu'il peut connaître la résurrection s'il n'est pas mort, parce qu'il s'élève tout de suite. Donc là, il y a une articulation que j'ai pas...
Alors pour la résurrection, en fait, dans la version coranique, Jésus n'a pas ressuscité. Puisque Jésus lui-même, que ce soit son faux semblant, etc., dans la version coranique, il a été élevé directement. Il n'a pas connu la mort. Là, il est encore vivant au deuxième ciel avec Jean-Baptiste. Et puis, il va revenir au moment de la fin des temps. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'articulation, parce qu'en fait, il n'y a pas de résurrection. En ce qui concerne la question de l'interprétation, mais c'est excellent parce que c'est tout à la fois. C'est-à-dire que l'exégèse, c'est une science, hein, la science de l'exégèse. Il va y avoir l'exégèse par le texte coranique, l'exégèse par ce qu'on appelle la sunna, c'est-à-dire la tradition prophétique propre à Mohammed. On va avoir les exégèses par consensus de savants, c'est-à-dire que sur des points plus actuels, on va avoir des savants de différentes écoles, puisque dans l'islam, il y a plusieurs écoles. On appelle ça des écoles de jurisprudence, c'est vraiment du droit pur et dur. Ces écoles vont s'articuler parce que sur certains points, une école va dire A, l'autre école va dire B, et comme ce sont des savants, les musulmans vont pas dire telle école a raison, telle école a tort, mais je vais suivre cette école plus qu'une autre parce que je m'y retrouve davantage, parce qu'en plus, les écoles ont une forme de spécificité, on va dire, géographique, culturelle, qui vont faire qu'on va plus se retrouver dans l'une parce qu'elle va être plus proche de la manière dont on conçoit le monde, dont on conçoit nos sociétés. Et donc, l'interprétation, bah, ça va être tout ça à la fois. Quand moi j'ai dit l'interprétation et quand j'ai parlé des exégèses, je l'ai dit au tout début, mais c'est vrai que c'était peut-être pas très clair. Sur cette conférence-là, je me suis fondée uniquement sur l'interprétation du texte coranique. Et lorsque je vous ai donné des indications, par exemple l'histoire de Jésus et ses maîtres, ou l'histoire du fait que Jésus soit au deuxième ciel, ou encore l'histoire de la lucarne, enfin l'histoire que c'est Simon qui a remplacé Jésus, là ce sont des interprétations que l'on trouve dans la Sunna. Donc c'est le prophète Mohammed qui a donné des indications au moment où il y a eu la révélation, et donc qui les a transmis à ses compagnons, forme d'apôtres, hein, et ces apôtres donc ont transcrit ces paroles que l'on a encore aujourd'hui, que l'on peut lire dans ce qu'on appelle des sahih, des compilations de textes de la Sunna. Donc pour cette conférence, je me suis basée uniquement sur l'interprétation du texte coranique, mais en fait, l'interprétation c'est très large parce que ça peut être interprété de plein de manières différentes. D'où l'importance en université de toujours demander la source d'où on tient ce que l'on est en train de raconter, parce que ça peut être quelque chose qui a une autorité pour le coup indiscutable, la source coranique, La source de la Sunna va aussi avoir une forme d'autorité très forte, selon que l'on qualifie le hadith comme étant faible ou comme étant fiable, justement, et d'autres faibles. Et puis, au niveau de l'interprétation de la jurisprudence, là encore, l'école a toute son importance, et surtout dans notre contexte aujourd'hui, où on va avoir une facilité à lire des avis et des interprétations de certaines écoles qui se trouvent à l'autre bout du continent oriental, alors que nous, on vit ici en Europe, et que du coup, nous n'avons absolument pas les mêmes façons de penser, façons de vivre, façons de faire, etc. Donc, voilà, l'interprétation, ça reste très large, et merci beaucoup pour cette question qui permet aussi de recadrer les choses. Et en ce qui concerne le livre, les gens du livre, alors, dans l'islam, il y a donc les cinq piliers de l'islam, qui sont assez connus, qu'on apprend d'ailleurs, je crois, au programme de 6e. Et puis, il y a les six piliers, 5e, et les six piliers de la foi. Et parmi ces six piliers de la foi, arkan al-iman, il y a le fait de croire aux livres qui ont été révélés. Les livres, il y a la Torah, je vous le donne comme ça en transcription, après je... la Torah, l'évangile au singulier, les psaumes de David, ce qu'on appelle Zabour, et les feuillets d'Ibrahim et de Moïse. Certains théologiens qui sont plus axés sur l'archéologie s'intéressent au fait que ces feuillets seraient peut-être ceux que l'on a retrouvés en 1950 à Qumran. En ce qui concerne leur descriptif, donc la Torah, pour la Torah et l'Évangile, ce sont tous les deux des livres qui sont qualifiés de Houdan ou Anuran, c'est-à-dire des guides et des lumières. C'est-à-dire qu'on considère que ce sont des livres qui ont été révélés directement par Dieu, pour la Torah à Moïse et pour l'Évangile à Jésus. Maintenant, effectivement, on le voit au singulier, et pas comme là on a les quatre évangiles canoniques. Donc, lequel évangile ? Très certainement pas Barnabé, comme on peut le voir dans les débats interreligieux. Pitié, non. Le Coran ne considère pas que l'évangile apocryphe de Barnabé est celui qui est mentionné dans le Coran. Non. Aucun théologien vous dira ça. Donc, lequel ? On ne sait pas. On sait juste que c'est le message qui a été donné à Jésus, et qui a ensuite été transcrit au peuple avec lequel il évolue. La nature même, enfin le descriptif même, on ne l'a pas. On sait juste que ce sont des livres dans lesquels on a l'obligation de croire, donc qu'on a l'obligation de respecter. Simplement, la différence, on va dire, théologique, dogmatique, c'est que pour le musulman, ces livres existent, ont été révélés, on en a encore la trace aujourd'hui, mais dans ces livres, l'islam considère qu'il y a eu des... Alors, moi, j'aime pas le terme falsification parce que ça donne l'impression que c'est jugeant pour la personne dont c'est le livre. Mais on va dire des choses qui auraient peut-être été mal retranscrites, ou en tout cas qui sont connues différemment ou comprises différemment dans la théologie musulmane, qui auraient nécessité la révélation d'un autre livre, le Coran. Vous allez avoir toute une théologie, justement, dite de falsification, qui va s'intéresser aux choses qui sont dites moins cohérentes avec le message de l'islam, et donc qui sont considérées comme étant des preuves que ces livres ont été altérés. Je ne sais pas si c'était très clair.
Parfait. On en discute en islam, de ça ?
Beaucoup. Beaucoup, parce que il y a du coup, déjà moi dans ma spécialité, la théologie comparée, je compare quoi et je me base sur quel, quand je dis je lis la Bible, oui, mais si tu considères que la Bible est falsifiée ou en tout cas altérée, pourquoi tu nous fais une conférence sur ce qui est écrit dans la Bible? Ça n'a aucun sens. Donc du coup, il y a énormément de discussions à propos de ce qui est que contient le message biblique, ce que contient le message de la Torah, etc. De manière à comprendre ce qui est dans les textes et ce qui potentiellement pourrait faire partie de ce qui pose souci et ce qui aurait causé la révélation coranique.
Parce que je ne suis pas très savante dans ce domaine, mais quand on parle de la lecture de la Torah, des évangiles, des psaumes, c'est elles qu'ils sont retranscrits dans le Coran. Où alors il n'y a que les intellectuels qui peuvent aller rechercher la Torah, enfin, ou lire les évangiles avec leur compréhension. Quand vous dites ces six livres auxquels il faut croire, plus ces feuillets, Mais concrètement, pour un musulman, je dirais, ça veut dire quoi? C'est très différent quand on l'étudie comme vous en tant qu'universitaire ou de façon intellectuelle, parce que j'ai déjà entendu aussi ce discours-là. Mais comment, disons, est-ce que le croyant de base, comme nous on va dire les chrétiens de base, est-ce qu'on est obligé, voilà, de lire, on lit ça dans le texte même ou dans... Où est-ce qu'on les trouve, ces sources? Alors moi j'ai pensé que c'était peut-être dans tout ce qui fait référence à la Torah, où on trouve des points communs dans le Coran, pareil pour la Bible, mais c'est une question pas aussi savante que... voilà.
Le Coran, on affirme généralement qu'il n'y en a qu'un, parce que les autres auraient été détruits de façon à ce qu'il n'y en ait plus qu'un à une époque de début de l'islam. Est-ce qu'on peut penser qu'effectivement il existe des variantes? Comme il existe de multiples variantes pour les passages bibliques et en particulier ceux du Nouveau Testament, ou bien est-ce que ces versions plus anciennes ou détruites ont définitivement disparu, ou est-ce qu'on peut espérer en retrouver des traces?
Alors là, celle-là, elles sont moins sympas, hein, elles sont plus dures. La première, c'était... une réponse du coup à ce qu'on disait sur la révélation des autres livres. Quand je parle des livres, est-ce que on les lit aujourd'hui? Est-ce qu'on est obligé de croire en ce qu'il y a, ou est-ce qu'on les prouve, ces livres? Eh bien, la Torah, les évangiles, les psaumes, alors les feuillets d'Abraham et de Moïse, pour la petite anecdote, dans mes études de théologie, j'ai pu fréquenter toutes sortes de communautés, et notamment les mormons, que j'affectionne beaucoup. J'avais même eu la chance de partir au temple de Paris avant qu'il soit consacré. Et quelle ne fut ma surprise lorsque je découvre que dans leur corpus de textes sacrés, ils avaient le livre de Abraham et Moïse. Et je me suis dit, oh, tiens-t-on quelque chose? Et donc je l'ai lu, et puis il s'agit en fait d'un livre où il y avait des épisodes que l'on retrouve dans l'interprétation prophétique, notamment l'histoire où Abraham, et puis d'ailleurs dans le Coran aussi, Abraham se retrouve immolé, et c'est une forme de dragon, je ne sais plus le terme, un gecko, j'ai dû y avoir un autre mot pour qualifier ça, qui souffle sur les braises pour faire en sorte que ça, qui brûle encore plus vite, et puis il est sauvé par l'intervention divine, puisque les braises deviennent finalement quelque chose de très frais. Et je me suis dit, tiens, un récit convergent dans chez les Mormons, étonnant, enfin bon, bref. Puis bah moi, qui suis très curieuse, voilà, je me suis pas arrêtée là, je suis allée chercher un petit peu les traces. Donc, pour répondre à la question par un avis personnel, chose qu'une universitaire normalement ne doit pas faire, mais là, pour le coup, c'est parce que, bah, oui, bien sûr que quand on lit dans le Coran une allusion à la Torah ou à l'Évangile au singulier, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si c'est celui de Jésus selon Luc, selon Marc, selon Jean, selon Matthieu, oui, gros trou, ou peut-être un apocryphe, qui sait. Donc, où les lire? Ben, en fait, nous, dans nos études, on lit la traduction œcuménique biblique, la TOB, qui convient aux catholiques, protestants, orthodoxes. Et puis, en fait, on en lit plusieurs, parce que ça répond à la deuxième question. Alors, le Coran. Donc, dans le dogme musulman, il y a al-Kitab, c'est-à-dire la mère du livre, qui est préservée au ciel, donc intouchable physiquement, et donc inaltérable. Ce qui a été fait sur Terre, en tout cas les versions que l'on a sur Terre, déjà, moi là par exemple, je vous ai donné des versets en français. Le texte coranique n'a pas été révélé en français, mais en arabe. Donc ce que je vous donne, c'est une traduction. C'est déjà autre chose que le Coran. Parce que la traduction, c'est en quelque part une forme de trahison. On dit traduire, c'est trahir. Et c'est on ne peut plus vrai dans les sciences religieuses. Parce que le mot arabe et le mot français, ça va pas vouloir dire exactement la même chose. Voire, ça peut être extrêmement dangereux de rester dans une forme de traduction. Je pense à un tout autre sujet que celui de Jésus, mais celui qui est très actuel malheureusement sur la violence faite aux femmes. On a le fameux verset de la sourate numéro 4, le verset 34, qui nous dit quoi ? Daraba. Daraba en arabe, ça a franchement au moins 10 occurrences. Parmi lesquels, effectivement, dans un certain contexte, ça peut vouloir dire frapper. Or, que lit-on quand on lit un Coran en français dans la majeure partie des traductions pré-là 2020 ? Frappez-les. Ça a donné toute une compréhension, on va dire ça comme ça, avec d'énormes guillemets, de certains versets coraniques légitimant un certain comportement absolument abject et totalement anti-islamique, vous imaginez bien, sur les rapports hommes-femmes. Donc, pour répondre à la question sur le Coran, eh bien, oui, on a eu au moment où il a fallu faire un codex, c'est-à-dire un livre que l'on peut... Pour revenir dans le contexte, ah, ça y est, c'est pour ça que j'ai des notes, parce que sinon ça part dans tous les sens. Pour revenir dans le contexte, c'était une tradition orale, c'est-à-dire que les gens s'asseyaient autour en groupe pour apprendre ensemble. Ainsi, ils avaient accès au savoir, ils remémorisaient les choses, et de ce fait, avaient connaissance du texte par une connaissance presque universelle, dans le sens où c'était un savoir qui se transmettait. Puis, il y a eu les expéditions, et de ce fait, avec les différences linguistiques, les différences d'accent, les différences de lecture, ils se sont dit, bah, effectivement, ce serait bien d'avoir un texte qui soit le même pour tous. On parle sûrement que c'était l'allusion au Coran de Haussmann. Je pense que c'était une allusion à celui-ci. Aujourd'hui, on a effectivement un texte en arabe qui est ce qu'il est, et qui est, enfin, pour le coup, le même, chaque Coran est le même en langue arabe. Ce qui va différer, déjà, c'est les lectures. On parle de 10 lectures, et parmi les différences des lectures, on peut avoir des mots qui, du coup, ne sont pas prononcés de la même façon, et ça peut changer un peu, pas beaucoup, le sens, et donc on peut se dire, ah oui, il y a une petite particularité. Plus les traductions, les ajouts qui vont être faits, et les interprétations, pour en revenir à notre tout premier sujet avec la toute première question, et c'est ensuite les interprétations qui vont faire qu'on a l'impression qu'il y a plusieurs Corans, et d'ailleurs dans les traductions, si vous prenez la traduction de Jacques Berck, année, on va dire, entre 60 et 80, vous allez me dire c'est vraiment... C'est une fourchette EDF, mais je ne me rappelle plus la date exacte, ou le Coran, selon Maurice Glotton, n'a rien à voir. On a l'impression que ce n'est pas du tout le même texte, parce qu'il y en a un qui est plus axé orientalisme, et l'autre qui est plus axé soufisme, interprétation des textes, et tout. On n'a pas l'impression de lire exactement le même texte coranique. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, j'ai l'impression que j'ai un peu botté en touche, mais... Et en ce qui concerne le paraclet, alors la question c'était est-ce que dans la Bible on a la mention faite de la venue du prophète Mohammed ? Verset dit le paraclet. Alors les musulmans vont interpréter, tout comme en théologie chrétienne, on va lire l'Ancien Testament à la lumière du nouveau en y voyant des signes de l'arrivée de Jésus, eh bien pour l'islam, on va avoir certaines idées, certaines traditions, certaines interprétations et certaines lectures du texte biblique qui effectivement semblent préparer la venue du prophète Mohammed, notamment en mentionnant l'idée qu'un prophète va venir, qu'un messager va venir indiquer un message clair, un message unique, etc. Ça fait partie des interprétations, effectivement, de l'islam, de penser que certaines révélations bibliques préparent la venue de Mohammed. Néanmoins, ce n'est pas une version, très véhiculée, parce que comme de l'autre côté, on part du principe où le texte biblique a pu être altéré, on ne peut pas en faire une preuve véridique, parce que qui nous dit que ce n'est pas un des versets qui, du coup, pose question ? Donc ça existe, il y a vraiment une théologie qui s'intéresse au paraclet, et dans ce fait c'est une excellente question, et effectivement on peut lire le texte de cette façon-là, mais c'est pas quelque chose qui va être vraiment attesté, ça en fait pas un dogme.
Mais, et d'ailleurs je crois que dans la théologie, déjà merci, et je crois que dans la théologie chrétienne, je crois qu'en plus, je crois qu'il y a aussi consolateur, un jeu de traduction, et je crois que dans d'après la théologie chrétienne, c'est pour faciliter la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, si je ne dis pas de bêtises.
Est-ce qu'il y a aussi le... Est-ce que il y a lui, Lippe, est-ce que aussi... Alors moi j'avais une autre question, j'avais lu dans les évangiles de Marc jusqu'à Jean, justement l'histoire de Simon, qui en fait, donc dans les évangiles, on voit qu'il porte, avant la crucifixion, il va rechercher, je crois, un tronc de bois pour préparer la croix. Et en fait, plus on avance dans les évangiles, donc plus on est dans un évangile récent, je crois que c'est celui-là de Jean, je crois. Le dernier.
Oui, c'est Jean.
Enfin, c'est Jean, là. Et on voit qu'il a complètement disparu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus, il est plus noté le fait qu'il va chercher le bout de bois, enfin, si je dis pas de bêtises. Qui va chercher le bout de bois, qui va préparer la croix et tout. Et du coup, je voulais savoir, est-ce que j'avais lu que il y avait aussi une discussion justement là-dessus sur éventuellement le fait justement de parler avec le Coran qu'il aurait pu être remplacé par Simon, sur la croix d'après les musulmans. Et donc je voulais savoir s'il n'y avait pas aussi possibilité d'interprétation des chrétiens vis-à-vis de ce dogme en fait. J'ai vu que dans l'évangile le plus tardif, donc la description de Simon sur le fait de préparer le bois pour la croix, il est très sommaire, voire pas du tout.
C'est juste pour rajouter un élément. Moi j'avais lu un bouquin qui me fait penser qu'il y avait la question du faux-semblant était issue d'une secte chrétienne. Donc en fait, il y aurait une continuité même, et pas une. Enfin, l'opposition est relative, puisqu'en fait il y a même une continuité à travers le texte chrétien, je sais pas si c'est ça.
Ouais, exactement. Ouais, effectivement. Merci
beaucoup. Je voulais savoir si les musulmans lisaient beaucoup le Coran, et donc allaient quelquefois aussi consulter les lectures qui sont citées dans le Coran. Il y a une pratique de la lecture du Coran importante. Une pratique de la lecture du Coran, quelle que soit la...
Alors du coup, là, pour le coup, je suis désolée, mais pour la réponse sur l'absence de Simon, en fait, je ne sais pas. Alors, je ne peux pas répondre, mais je l'ai noté, et ça m'intéresse, donc je vais chercher. Peut-être quelqu'un sait.
Et plus on avance dans les évangiles, par ordre chronologique, et plus on voit que Simon, en fait, Simon de Cyrène, il est moins impliqué dans le port de la croix.
Il est crevé.
Il s'efface un petit peu en qui je peux faire.
D'accord. Mais du coup je n'ai pas d'éléments à m'apporter sur ce sujet. En ce qui concerne la pratique de la lecture, c'est une excellente question. Et effectivement, il y a l'équivalent du catéchisme qu'on appelle vulgairement l'école arabe, c'est-à-dire que les enfants vont être formés très vite aux textes coraniques, vont même avoir et participer. D'ailleurs, les Réunionnais sont excellents dans la mémorisation du Coran et ce sont souvent les premiers qui arrivent en France, qui arrivent en premier, donc en tant que mémorisateurs du Coran. Mais mémoriser le Coran et le lire et le comprendre, c'est tout à fait différent. Et effectivement, on assiste à un retour aux fondamentaux du texte, à savoir de plus en plus de professeurs font en sorte qu'on ne mette plus l'accent sur la mémorisation seule, mais sur la lecture et la compréhension, de manière à être capable aussi de s'armer intellectuellement, évidemment, pour comprendre le texte et ses traductions. Donc c'est quelque chose pour lequel, parce qu'en fait, il y a aussi l'explication, on va dire, sociologique, du fait que maintenant, les musulmans qui sont en France et qui sont jeunes sont des musulmans de langue française, de culture française, et donc du coup qui sont pas forcément clairs avec le texte et qui vont pas avoir l'arabe en réflexe. Et donc, ils vont apprendre un texte coranique, mais vont pas forcément comprendre. On leur ferait une poésie des fables de La Fontaine traduite, ça serait pareil, parce que quand on n'a pas la langue arabe, peu importe ce qu'on nous met entre les mains, ça peut être la même chose. Le générique de Oui Oui ou El Fatiha, quand on sait pas l'arabe, c'est pareil. Et là, c'est rigolo, Oui Oui, mais l'exemple que je vous ai donné avec Daraba, c'est dramatique. Donc, on a effectivement de plus en plus de professeurs qui eux-mêmes sont arabophones mais de culture française et qui ont été formés à la théologie et pas comme avant, juste je transmets le Coran parce que moi-même je le comprends et je le connais, et qui militent, vraiment militent, pour que les cours soient accompagnés d'une connaissance et d'une lecture aussi en français. Donc en arabe, parce qu'il faut bien comprendre l'arabe pour bien traduire, mais en français pour être bien au clair sur ce que l'on comprend et ce que l'on lit. Donc c'est une excellente question et pour le coup, quelque chose qui va être de plus en plus démocratisé par le fait que bah, les musulmans en France maintenant sont plus à l'aise avec le fait bah, d'être de langue française et d'apprendre l'arabe et de comprendre la religion, etc., etc. Et d'ailleurs, on ne dit plus l'école arabe, en fait. Maintenant, on parle vraiment de faire cours de Coran, cours de Coran, mais on ne dit plus « je vais à l'école arabe ». Ça ne veut plus rien dire maintenant pour les petits jeunes. Ils ne vont pas apprendre l'arabe, en fait. Ils vont apprendre le Coran en langue arabe. Mais ça aussi, le terme a changé.
Mais c'est au-delà de du temps de catéchisme, entre guillemets, de l'école arabe. C'est-à-dire quand vous avez des jeunes adultes, ils ont fini la formation. Est-ce que les adultes, par exemple, sont venus côtoyer musulmans, qui ont l'habitude de lire le Coran et comme peut-être chrétien, évangélique, comme une religion.
J'ai la chance de m'entourer que de personnes exceptionnelles, très intelligentes, très engagées, et donc du coup qui, oui, lisent le Coran. On a d'ailleurs des membres du groupe interreligieux aussi, au fond, je sais qu'ils lisent le Coran, qu'ils le comprennent et qu'ils font même des conférences sur le sujet. Donc oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus démocratisé, de plus en plus. Et ça devient important de bien comprendre sa religion et d'être vigilant face aux dangers que la religion, parce que la religion ça amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur personnel, malheureusement avec le contexte que l'on a et malheureusement les actualités, les musulmans de France sont, et les jeunes sont sensibilisés, que ce soit au milieu scolaire, au milieu du travail, au milieu même dans la sphère familiale, au sujet de bien être imprégné du texte et donc l'importance de revenir aux sources. Donc c'est de plus en plus maintenant. J'ai parlé un petit peu du Coran de Rosemont, mais c'est pour ça que j'ai demandé si j'avais été assez explicite, sinon je peux revenir un peu sur la lutte.
Pourquoi le Coran de
Rosemont ? Le Coran de Rosemont, en fait, c'est quand le prophète Mohammed est décédé, eh bien, il y a eu quatre califes qui ont pris, entre guillemets, sa succession, les uns après les autres. Et pendant le règne de Rosemont, il y a eu plusieurs expéditions qui ont fait que les musulmans ont dû aller, un peu comme si on disait qu'à la mort de Jésus, les apôtres ont dû évangéliser le monde. Ben là, je n'ai pas le terme coranisé, c'est bizarre, mais on voit l'idée. Et c'est à ce moment-là qu'on parle de Coran de Rosemont, parce que sous son règne, on était... Alors, ça avait déjà commencé avant Rosemont, mais on parle du Coran de Rosemont parce que la compilation... On va dire, c'est finalisé, c'est officialisé à ce moment-là, la compilation écrite, de manière à ce que l'on puisse distribuer des exemplaires dans l'empire qui venait de s'agrandir. On en a distribué à Damas, on en a distribué à Bassora, de manière à ce que les peuples présents puissent avoir accès à un texte scellé, fixe, qu'ils allaient tous pouvoir lire de la même façon, et non plus une forme orale qu'allait forcément se perdre au gré des expéditions, des guerres, et donc aussi des disparitions de ceux qui connaissaient le Coran par cœur, puisqu'ils étaient tués en expédition. C'est pour ça qu'on parle de la version du calife Osman.
Moi, j'ai lu, on avait détruit des versions, justement, pour n'en garder qu'une seule. Alors, c'est de la blague, ou c'est...
Alors, c'est peut-être la version de 1924.
Non,
il y a plus d'un... Non, plus, ah, oui, dans
c'est... Je ne sais pas si... C'est détruit, en tout cas, les autres versions.
Oui, oui, il existe effectivement ces récits-là pour qu'il y ait la fixation d'un seul, d'une seule version. L'explication théologique, pour ne pas trahir ma méconnaissance du fait historique précis, c'est que j'ai parlé de diversité dans les accents, dans la manière de lire, dans l'accès au texte. En fait, le fait qu'il y ait une seule version fixée, ça permettait que chacun puisse avoir accès au même texte. Mais nous, en tant que musulmans, on considère que comme c'était le calife Osman et qu'il était bien guidé, s'il a gardé cette version, c'est qu'elle est fidèle au texte original. Parce que on parle de Rashidoun, donc ça veut dire en langue arabe bien guidé, sur une voie loin de tout égarement idéologique. Mais pour le coup, là, c'est plus de l'histoire que de la théologie. Donc je vous demande vigilance et de relire peut-être à ce sujet pour être sûr que ce que j'ai dit, c'est pas trop des bêtises. Et si quelqu'un connaît mieux que moi, qu'il n'hésite pas à réagir, parce que pour le coup, moi, c'est pas trop ma partie. Et là, c'est vraiment de mémoire. Donc,
si je peux me permettre, donc effectivement, quand on parle de détruire, c'est péjoratif. Mais il a détruit, c'est pour le bien, justement, parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait tellement de dialectes et qu'un mot pouvait justement diverger. Et il y a eu même des divergences à ce moment-là. Et c'est là qu'il s'est rendu compte. Il s'est dit, mais il faut compiler, que ce soit un écrit qui soit commun à tous. Et donc, il y a eu beaucoup d'opposants, justement, à cette destruction. Mais c'était pour le bien, effectivement, de la communauté musulmane, de garder un seul écrit, écrit en langue arabe classique, entre guillemets, qui soit comprise dans le monde entier. Il ne faut pas voir le mot destruction, c'est pas dans le sens péjoratif, quoi. C'est vraiment pour le bien, pour que ce ne soit pas, qu'il n'y ait pas de dérive, quoi, en fait, c'est ça. Donc c'est juste, vous parliez de divergences, on va dire, importantes par rapport à l'islam et à la chrétienté, donc en ce qui concerne la résurrection, les miracles, et pourquoi ne pas avoir parlé de la naissance qui est quand même. C'est tellement différent, la naissance de l'Évangile et la naissance qui est écrite dans le Coran, pourquoi ne pas en avoir fait mention, et la naissance de Jésus, en fait, hein, parce que, bon, entre guillemets, vous n'avez pas parlé de des chrétiens qui parlent de Joseph, disons la naissance même de Jésus avec Bethléem pour les chrétiens, etc. Et pourquoi dans les quatre Évangiles, justement, il y a cette histoire commune qui est tellement différent du Coran.
Quand on fait un peu l'histoire du prophète, on sait qu'il a rencontré une communauté chrétienne et que cette communauté chrétienne était de tendance, on appelle ça docète, c'est-à-dire que justement, elle ne pensait pas que le Christ soit un être corporel simplement, mais qu'il allait être élevé par Dieu. Donc déjà les docètes enseignaient ça, que le corps n'est rien, mais que c'est l'âme qui étant plus forte que tout, va partir au ciel. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on dit en islam au sujet, alors au niveau historique de cette rencontre avec les chrétiens?
Et pour compléter cette question, le fait qu'on retrouve quand même dans le Coran beaucoup d'histoires qui viennent des évangiles apocryphes, donc qui ont dû être rencontrées par Mohamed.
Alors sur la Sainte Famille, effectivement, c'est vrai, j'en ai pas du tout parlé, parce que je considérais pas que c'était forcément une divergence, mais maintenant que je l'écoute, oui, effectivement. Donc dans le Coran, uniquement le texte coranique, Youssouf al-Najjar, Joseph le charpentier, n'est pas mentionné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme je disais, au niveau du miracle de la naissance, ce qui compte, c'est le fait qu'il n'y ait pas de filiation du tout. En fait, on fait... Alors, bien sûr que les chrétiens vont pas dire que Joseph, c'est au niveau filial. Il y a une sainte famille, il y a un appui pour... Oui, bah peut-être certains, mais au niveau scripturaire, non. On a certains versets, effectivement, qui établissent une généalogie, mais... pour le coup, je pense que c'est, enfin j'ai l'impression, en tout cas en théologie, c'est assez clair sur le fait que la Sainte Famille n'a pas de lien avec la conception virginale et avec le fait que Joseph soit le père biologique de Jésus. Voilà, en tout cas, moi j'ai pas lu ça, mais je n'ai pas tout lu, bien sûr. Donc effectivement, la Sainte Famille est totalement absente du récit coranique ainsi que du récit de la Sira, de la tradition prophétique. On ne trouve pas de texte à ce sujet. On a Marie, qui est extrêmement importante, extrêmement mentionné. Et l'autre homme qui est présent dans la Sainte Famille, c'est pas Joseph, mais comme je disais, Joachim. Et c'est une des traditions, effectivement, des apocryphes, tout à fait, parce que dans les récits évangéliques canoniques, on n'a pas la mention de Joachim. Pour ça, il faut lire, je ne sais plus lequel, je crois que c'est Jacques, mais alors là, c'est vraiment de mémoire, pour avoir le prénom Joachim. Non, c'est Anne, un avec Anne, mais c'est pas mon prénom, c'est pas grave.
Oui, c'est le mari d'Anne.
Oui, non, mais le nom de l'évangile apocryphe. Mais c'est pas grave, c'est pas très important.
Il y a en particulier l'évangile de Marie.
Mais effectivement, c'est dans un évangile apocryphe que l'on retrouve le prénom Joachim. Anne est mentionnée, elle s'appelle Hanna. Et donc, comme je disais, Joachim s'appelle Imran. Et donc, effectivement, tout ça, c'est pas la tradition évangélique canonique. C'est très juste, c'est très vrai. Il y a beaucoup d'histoires, des récits apocryphes. Pourquoi ? Bah parce qu'effectivement, à un moment de l'histoire prophétique, il y a des échanges très importants avec les chrétiens, donc notamment en Abyssinie, avec ce qu'on appelle le négus étant un titre politique, c'était pas son prénom. À de nombreuses reprises, il y a eu des échanges, et ce, très fraternels, à tel point que lorsque les musulmans ont dû fuir la Mecque, parce qu'ils étaient persécutés, ils se sont réfugiés en Abyssinie et ont trouvé auprès de la communauté chrétienne plus que des frères, des protecteurs et des personnes qui leur ont assuré protection et aide. Ce qui a fait qu'ils se sont aussi bien entendus, c'est parce qu'on a effectivement, là pour le coup ce sont des récits de la Sira, donc des récits prophétiques, qui mentionne que quand ils ont parlé de Marie, ça les a, enfin, donc le prophète explique que les musulmans ont raconté, ont parlé au niveau théologique de ce en quoi ils croyaient, et ils sont venus à parler de Marie, et la manière dont les musulmans ont parlé de Marie, avec tellement d'amour, de révérence, et encore une fois, vraiment dans le Coran, Marie est dans l'islam, hein, Marie est très importante, c'est une femme parfaite, une femme qui est promise au paradis, il y en a quatre mentionnées comme étant parfaites, Marie évidemment en fait partie, et quand ils ont parlé de Marie, ça les a tellement touchés qu'ils ont dit, on accepte évidemment de vous venir en protection, parce qu'on a la même conception, le même amour pour cette femme exceptionnelle qu'est Marie, mère de Jésus. Donc cette rencontre avec les chrétiens, effectivement, a été excellente. Et c'est poursuivi aussi, notamment lors des versets coraniques qui mentionnent les pactes qui étaient faits ce coup-ci à Médine, auprès de tribus étrangères. Les juifs et les chrétiens étaient des alliés des tribus musulmanes contre les polythéistes. Mais alliés, ils avaient l'interdiction de s'attaquer, ils avaient l'obligation de se défendre, l'obligation d'être ensemble, de former, ils vivaient en forme tribale et ils avaient l'obligation de se considérer comme presque une tribu unique, dans le sens où c'était un groupe commun, avec beaucoup de fraternité et d'amour. Et ça peut être un magnifique verset pour conclure cette conférence, c'est que dans le Coran, malgré ce que les médias veulent dire, il y a énormément de versets sur l'amour et le fait de considérer les chrétiens comme des frères. Et j'ai plus le verset exact au niveau de la traduction en tête, mais en gros, ça signifie qu'on ne trouvera jamais des gens plus aimés de nous, des gens autres communautés encore plus proches de nous à aimer que la communauté chrétienne. Donc c'est vraiment un lien historique, un lien, bah, comme vous avez pu le constater, il y a beaucoup de divergences, mais il y a aussi beaucoup de convergences et un amour profond pour des figures qui sont centrales dans nos religions, et ça, bah,